Henri Martin, pour cette troisième partie, comme on l'a évoqué juste avant, on va parler de votre rôle de alors, vice-président du Grand Narbonne, de la communauté d'agglomération, notamment, d'abord, on va parler des marchés publics. Alors c'est quelque chose qui sonne un petit peu bizarre peut-être pour l'auditeur moyen ou le citoyen moyen, mais il faut savoir quand même qu'il y a des règles très très précises lorsqu'on doit dépenser l'argent public.
Et très strict, bien sûr. Mais si vous voulez, la différence entre l'achat spontané, volontaire, affectif, capricieux ou pas d'un particulier lorsqu'il passe aux commandes d'un bien quelque part, et le fait de faire la même chose pour le service public, c'est tout simplement qu'on doit répondre de la bonne utilisation des deniers publics auprès de tous nos concitoyens, alors que sur un plan privé, on en fait bon usage,
mais
on fait entre guillemets ce qu'on veut. Voilà donc un petit peu la différence. Alors effectivement, c'est un espace administratif très très important au Grand Narbonne, qui est dirigé par Madame Aubry, la responsable des finances, et donc la patronne entre guillemets du service achat et commande publique, c'est Christine Glaise. Alors le marché public, si vous voulez, si on veut synthétiser la définition, c'est un contrat, hein, c'est un contrat qui est conclu à titre onéreux par un ou plusieurs acheteurs, qu'il s'agisse de collectivités ou de groupements de collectivités, comme par exemple le Grand Narbonne, avec un ou plusieurs opérateurs économiques, qui soient publics ou privés, tout dépend du marché, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures et de services. Travaux, c'est dans le quotidien, ce sont les rues. Fournitures, ça peut être dans des véhicules ou autres. Et services, ce sont des services à personne, ce sont des services de gardiennage ou des services de nettoyage auxquels peuvent faire appel les collectivités. Voilà. Voilà en gros, si vous voulez, la définition globale et non exhaustive du marché public. Alors, ça se redivise ensuite en trois grandes catégories. Les marchés ordinaires, qui sont des marchés ponctuels pour une prestation spécifique, par exemple l'acquisition d'une benne à ordures ménagères, les marchés fractionnés, pour lesquels donc l'acheteur, l'agglomération, n'est pas en mesure, au stade de la passation, de définir avec exactitude toutes les modalités des besoins, mais par contre, tant au niveau de la quantité, de la fréquence ou de la nature, mais par contre, il est certain que le besoin se fera sentir. Alors là, il y a une technique dans laquelle je ne vais pas rentrer trop en détail, qui permet de passer des accords cadres à bonne commande ou à marché subséquent, qui consiste à présélectionner, si vous voulez, des futurs titulaires des marchés et qui, au moment, le jour J, où on a besoin d'enclencher, sont là, sont présents, se remettent dans leur groupe en concurrence pour déboucher sur un contrat que l'on peut passer avec eux. Et puis ensuite, il y a le marché à tranches sur des objectifs dont on sait qu'ils vont être évolutifs et que la collectivité s'engage à réaliser au fur et à mesure du calendrier sur lequel le marché a été passé.
Avec ce qu'on appelle un phasage. Là.
Un phasage et un marché est définitivement passé. Voilà. Par rapport au fait que l'accord cadre, lui, peut être beaucoup plus souple en termes d'utilisation. Voilà. Donc si vous voulez donner une image de volume concernant les marchés, il y a eu l'an passé presque 100 marchés à procédure, 100 marchés signés en procédure adaptée ou en appel d'offres. Il y a eu 190 marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence, et 80 marchés d'un montant supérieur à 5000 euros et inférieur à 40 000. Pour vous donner une idée de l'enveloppe, sur l'an passé, en 2021, le montant mandaté représente 60 millions d'euros. Voilà, donc c'est quand même une somme conséquente.
Et alors une question qu'on se pose souvent, c'est de l'argent local. Cet argent local, il va être dépensé où, chez qui et dans quelle zone géographique?
Alors il est évident que lorsqu'un marché est remporté par une entreprise locale, nous en sommes particulièrement ravis, mais parfois il y a des attitudes particulièrement agressives de la concurrence qui font que les marchés échappent. Mais sachez quand même que, pour revenir à l'année passée, la commission de ma part s'est réunie donc à 20 reprises, la commission d'appel d'offres a été convoquée à une dizaine de séances, et lors de ces 30 séances, nous avons débouché sur l'octroi de marché à hauteur de 70%, légèrement dessus, pour des entreprises du Grand Narbonne, géographiquement situées sur le Grand Narbonne, 3% de plus pour des entreprises situées dans l'Aude, 13% de plus pour des entreprises d'Occitanie, ce qui nous amène à 89% des marchés Occitanie au maximum, et seul, entre guillemets, c'est toujours trop, 11% des marchés échappent au secteur sur lequel ils seront livrés.
Voilà, mais de quoi rassurer quand même les, notamment les contribuables, leur argent, il est bien réinvesti dans quelque chose qui tourne autour de chez nous.
Quoi, oui, ce sont des ratios particulièrement encourageants.
Pour faire simple. Oui. Et alors, vous parliez de compétitivité. Alors, on est obligé, dans un marché public, de mettre plusieurs entreprises en concurrence. Comment ça se passe, là? Sinon, si on prend la première qui plaît, c'est du favoritisme. Enfin, c'est pas possible.
Oui, absolument. Et on s'engage sur des pistes particulièrement...
Donc vous avez un cahier de charges, on définit les besoins précisément.
Absolument. Les besoins sont définis avec beaucoup de précision. Il y a ensuite un critère de prix qui est retenu à hauteur de 60%, 70%, selon la complexité du marché. Et ensuite, il y a une valeur technique qui représente en principe 20-30 points aussi, donc variable avec le curseur, et ensuite une clause environnementale et une clause sociale, des clauses environnementales, des clauses sociales, qui comptent pour 5 à 10% ou 15% du marché en question. Mmh. Et une fois les plis ouverts, il est évident que examen des résultats avec beaucoup de rigueur, et ensuite passation des marchés.
Voilà, ça c'est pour le choix, la sélection, oui. Mais auparavant il a fallu donc lancer ce qu'on appelle un appel d'offres, c'est-à-dire oui. on a défini les besoins, on lance ça dans le public.
Sur une plateforme départementale. Aujourd'hui, tout est dématérialisé. On n'amène plus les plis avec enveloppe. Oui,
donc c'est de l'Internet.
C'est tout dématérialisé. Les entreprises ont des systèmes d'alerte sur ces plateformes pour surveiller un petit peu ce qui peut sortir dans le cadre de leur spécificité de professionnelle. Et à partir de là, ils viennent
faire leurs offres. Quoi.
Faire leurs offres et soumissionner s'ils sentent qu'ils peuvent, s'ils ont la dimension du marché, s'ils ont un calendrier qui leur permet de rentrer dans le calendrier que le demandeur propose. Et puis le déroulé du marché se fait de façon formelle et particulièrement rigoureuse. Et comme je vous le dis, tout à fait étanche, puisque maintenant c'est totalement dématérialisé. Il y a un coffre virtuel qui fait qu'on ne l'ouvre que à la seconde de près, le jour où on peut étudier les offres.
Bon, ça plaisante pas, c'est pour dire.
Ah non, absolument pas.
Ça se passe comme ça, également pour plus ou moins comme ça, pour une commune, pour un département, pour toute collectivité.
Ce sont les mêmes méthodes.
Voilà. Alors, vous êtes également, Henri Martin, responsable des bâtiments communautaires. Et alors, les bâtiments communautaires...
Les véhicules.
Et les véhicules, ça représente également beaucoup de choses. Mais les bâtiments, c'est plus spectaculaire parce que les gens les rencontrent. Citez-nous les principaux. Mais c'est une liste quand même impressionnante. Je crois qu'il y en a une douzaine ou une quinzaine.
Oui, qui est assez importante. Et là aussi, c'est un service qui est particulièrement important au niveau de l'agglo, qui est supervisé évidemment par le directeur général des services, Monsieur Juge, Ludovic Juge, qui est dirigé par Jean Roqueraille. Et plus spécifiquement, c'est Jean-Michel Ponce qui est directeur de l'aspect patrimonial au Grand Narbonne.
Alors, ça s'appelle le patrimoine.
Ça s'appelle le patrimoine, c'est-à-dire le patrimoine bâti. Et puis ensuite, le côté véhicule séparé, c'est plus mobilier. Dans le patrimoine bâti, le Grand Narbonne possède 19 bâtiments.
Ah, je disais voilà, une quinzaine, j'étais en dessous de la vérité.
Voilà. Alors, ce sont des bâtiments qui sont rentrés au gré de l'histoire dans le patrimoine de l'aglo, parce que les communes ont rejoint l'agglomération. Et donc, comme la compétence est
déliée... Oui, ça signifie qu'un certain nombre étaient auparavant municipaux.
Oui, municipaux ou dans des communautés de communes. Et lorsque la compétence liée à l'immobilier, ce qui est souvent le cas, hébergement des services d'entretien, lorsque le siège de l'agglo a été créé, il est évident que la compétence a été transférée auprès du Grand Narbonne et que les bâtis qui jusqu'à présent étaient gérés par les communes ou les intercommunalités sont gérés dorénavant par le Grand Narbonne. Et donc, comme je vous l'ai indiqué, ils sont au nombre d'une vingtaine. Alors, parmi les plus importants, c'est
le siège, d'abord.
Le vaisseau amiral, c'est le siège, bien sûr, l'hôtel d'agglomération.
L'ancienne Banque de France.
L'ancienne Banque de France, qui est un bâtiment particulièrement prestigieux que nous allons d'ailleurs rénover dans les prochains mois si le vote budgétaire est favorable. Il y a ensuite Inès, qui est l'ancienne DOT.
Bâtiment qui existait, qui était à France Télécom jadis.
Oui, absolument. L'espace de liberté.
Qui est à Saint-Jean-Saint-Pierre, sur Narbonne.
Qui est à Saint-Jean-Saint-Pierre. Ensuite, l'espace de liberté.
Alors ça a été créé par Hubert Mouly dans les années fin 80, je crois, pour, voilà. pour 89, puisque c'était pour célébrer
c'est
la
vrai.
Révolution.
Voilà, donc, voilà, c'est vrai.
Donc 1989.
Une trentaine d'années, voilà, qui a bien vieilli d'ailleurs, mais qui doit faire l'objet d'une réflexion, tant au niveau de l'organisation que de rénovation aussi, puisque l'espace de liberté a démarré avec une cafétéria. Il ne vous a pas échappé que la cafétéria
a pris une autre dimension.
Complètement une autre dimension, dont il va falloir trouver donc un projet de vie pour cet espace dans les 30 années à venir, à partir donc de réaménagement, de renégociation de contrats qui sont devenus un peu obsolètes et pas tout à fait adaptés à la réalité d'aujourd'hui. En fait, ça, nous aurons l'occasion certainement d'en reparler. Il y a ensuite le théâtre.
Le théâtre, bien sûr, l'a construit également oui. un petit peu plus tard par Hubert Mouly, qui a d'abord été municipal.
Voilà. 6 000 m2, le parvis a été rénové d'ailleurs l'année dernière pour un montant de 300 000 euros. Le parvis s'était dégradé, puisque entre la création du théâtre et l'invention des planches de skate, urbain, il y avait des museaux de marche qui étaient un petit peu trop fragiles. Il y a ensuite la médiathèque.
On voit que la culture joue un rôle important dans le patrimoine.
Absolument. Et la médiathèque commence un petit peu à vieillir elle aussi, entre guillemets, bien que ce soit un jeune bâtiment, mais il va subir un grand carénage, certainement, comme on dit dans la marine, dans les 2-3 ans à venir. Il y a ensuite le parc des expositions, sur lequel nous menons aussi une réflexion, à savoir s'il faut encore abonder et l'agrandir ou pas, ou le garder en l'état, lui trouver une autre destination, puisque le foncier en particulier va être meurtri un petit peu par l'extension des berges de la Robine,
L'ancienne route de Gruissant, l'avenue André Meckle aujourd'hui.
Par une coulée verte, donc ce ne sera plus tout à fait la même chose. De plus, l'aréna est arrivé dans le paysage, donc je crois que la complémentarité entre les deux sera très étudiée.
Voilà, mais les foires notamment se déroulent par excellence au parc des expositions.
Oui, je pense que les foires seront repensées aussi, parce que sur une foire, il est temps de s'apercevoir qu'il faut faire venir des gens de l'extérieur. Il ne faut pas faire des foires que pour les Narbonnais. Il faut qu'il y ait des gens de l'extérieur qui aient envie de venir. Donc je crois que là aussi, il y a une réflexion qui est en train d'être menée. Il y a ensuite le patio des arts.
Alors, ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est les conservatoires.
L'école de musique, voilà, exactement. Donc là aussi, une prévision de rénovation assez importante, tant au niveau des façades que des aménagements intérieurs. C'est un bijou de rénovation de bâtis anciens, absolument extraordinaire. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous encourage à le visiter.
Oui, ça a été successivement une école, un collège.
C'est très réussi.
Un historique très fort.
Très réussi. Un peu moins souriant, le centre funéraire et le funérarium. Voilà,
qui est communautaire.
Qui est communautaire, sur lequel nous allons investir lourdement également pour créer une salle multiculturelle plus des salons complémentaires. Il y a le Capitole Maison de l'Habitat, sur lequel, qui a été inauguré d'ailleurs il y a 2-3 jours, quant à son réaménagement pour une accessibilité.
Pour les vieux Narbonnais, c'est l'ancienne maison de la formation.
Et la maison de la formation, qui est rue ancienne Porte-Neuve sur le côté. Donc,
à côté du collège Victor Hugo, pour le situer.
En face à Victor Hugo, oui, c'est ça. Et l'espace Razembo, la pépinière Innoveum, qui existe aussi
pépinière d'entreprise.
À l'opposé l'un de l'autre de Narbonne. La gare routière, donc, accueille Keolis. Donc, qui va être amélioré d'ailleurs, sur lequel nous allons investir dans les semaines qui viennent.
Alors, Keolis, ce sont les transports
par bus. Voilà. Et le centre transfert Keolis lui-même, qui est de l'autre côté de l'entrée de Narbonne.
À la zone de la Coupe, par là.
Zone de la Coupe, exactement. Il y a l'aire d'accueil des gens du Grand Voyage, qui se trouve sur la route donc de Montredon. La maison Bonal au Somail.
Au Somail, oui, ouais. Ça c'est peut-être moins connu, il faut le souligner.
Absolument.
Et c'est un patrimoine touristique qui se développe dans ce sens.
Qui se développe avec le syndicat local, et puis les parties extérieures donc avec l'agglomération. Le bâtiment ex-Aigretier à Coursan, qui va nous permettre, lors de la prochaine rénovation, de rapatrier une partie du service encombrant, du service ordures ménagères, et de faire pouvoir donner quelques mètres carrés complémentaires au service de l'eau, à la régie. Le bâtiment Cruffito à La Palme, c'est un bâtiment qui se trouve au point de La Palme, qui a été désaffecté et dont, à qui nous cherchons une nouvelle vie, une nouvelle destination à caractère commercial, peut-être même toujours dans le vin, à voir. Nous attendons les diverses propositions qui vont nous parvenir. Nous avons procédé à un nettoyage de tout le pourtour qui est un petit peu laissé aller. Il y a les chenilles de Narbonne et de Port-la-Nouvelle. Que nous allons également traiter, puisqu'il faut isoler et mettre à température ces abris pour les saisons où il fait très chaud. Et puis les centres techniques, Coursanges, Ginestas, Narbonne, Sigean, où sont traités l'enlèvement des herbures ménagères. Et enfin, la piscine de Fleury, le petit dernier.
Donc on le voit que les communes alentour de Narbonne possèdent également une partie importante du patrimoine.
Absolument.
Merci Henri Martin pour toutes ces précisions. Je pense que dorénavant, nos auditeurs auront une vision un petit peu plus large de ce que c'est que le Grand Narbonne. C'est vraiment le Grand Narbonne. On l'a vu, cette liste de bâtiments est à la fois prestigieuse et très utilitaire de plus en plus.
Ce fut un plaisir de vous rendre visite, M. Jules.
Merci à vous. Et le prochain invité, on va parler de médecine, notamment d'accès aux soins, de désert médical, puisque je recevrai Jean-Pierre Courrèges, qui est adjoint au maire à Narbonne, également conseiller communautaire, et qui, ça ne surprendra personne, a des responsabilités concernant la santé. Merci Henri Martin, merci aux auditeurs de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.
Merci. Thank you.